Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église. Ce samedi 4 octobre, nous fêtons Saint François d'Assise. Le lendemain, une messe lui est dédiée à l'église du Sacré-Cœur de Toulouse. Et l'an prochain, en 2026, nous allons commémorer le 800e anniversaire de sa mort. Et un colloque doit être organisé dans la Ville Rose à l'occasion de cet événement. Autant de bonnes raisons de consacrer cette émission à celui qu'on appelait Il Poverello, le petit pauvre. Trois invités pour évoquer Saint François d'Assise, sa vie, son œuvre, ses écrits et l'héritage spirituel qu'il nous a laissé, notamment au sein de la grande famille franciscaine et de ses trois ordres. Je suis très heureux d'accueillir et de saluer Pascal Bonnef et sœur Marie Joie. La première est membre du tiers ordre franciscain, c'est-à-dire qu'elle est sœur de Saint François d'Assise, et vous êtes également formatrice.
Alors, je suis dans un comité de formation permanente pour toute la famille franciscaine pour la France.
Et sœur Marie-Joie, vous êtes membre de l'ordre des Clarisses. Et puis nous avons aussi à nos côtés Gilles de la Taillade, membre des fraternités franciscaines qui font elle partie du tiers ordre franciscain séculier. Bienvenue à tous les trois et grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je propose que nous commencions par un rappel. Parce que si tout le monde ou presque connaît le nom de François d'Assise, tout le monde ne sait pas forcément ce que furent sa vie et son œuvre de saint. Je vais donner la parole à sœur Pascal au départ pour cette partie biographique. Le futur saint François est né en 1181 ou 1182 à Assise, dans une famille nombreuse, mais aussi une famille riche et aisée, en tout cas pour l'époque.
Alors oui, François est né à Assise à la fin du XIIe siècle. Il est issu d'une famille bourgeoise, aisée mais bourgeoise, pas aristocratique, à la différence de Claire qui est issue de la noblesse. Et c'est une époque de croissance urbaine forte, une croissance économique, une croissance de taille des villes aussi, qui laisse beaucoup de monde sur le bord de la route. Donc une croissance urbaine, une croissance économique, François qui est de la bourgeoisie, donc qui est d'un milieu riche, mais qui n'a pas le pouvoir parce qu'il n'est pas noble. Et puis tout autour de lui, immense nombre de pauvres qui n'ont accès à rien. Et François vit là-dedans, grandit dans ce milieu-là, dans cette petite ville d'Assise, et très rapidement, il est le roi de la fête. Parce que papa a de l'argent, hein, et donc il en profite. Hein. Il régale tout le monde, il est le roi de la fête. Il doit être, je ne sais pas s'il est, on dirait beau gosse aujourd'hui, je ne sais pas trop. Manifestement, on ne dit pas qu'il est joli. Mais en tout cas, c'est le roi de la fête parce que papa a de l'argent, et donc ça plaît bien, et il en profite bien. Il rêve de devenir chevalier. C'est son rêve, il ne veut pas être marchand comme papa, il veut être chevalier. Parce qu'être chevalier, ça veut dire réussir autrement, quelque part, devenir comme un noble. Mais son dessein va être contrarié, d'une part parce que les habitants d'Assise vont se révolter contre les nobles, notamment. Et donc, c'est à cette époque-là que Claire va devoir fuir Assise pour aller se réfugier avec sa famille à Pérouse.
La future Sainte Claire.
La future Sainte Claire, voilà, qui est plus jeune que François. Et donc, François va se révolter, va prendre, avec les jeunes bourgeois, va prendre la forteresse de la Rocca qui domine Assise et qui est symbole du pouvoir des nobles et du pouvoir tout court que lui n'a pas. Et bon, ça va mal tourner. Il va être fait prisonnier. Il va se retrouver dans les geôles à Pérouse pendant un temps assez long et il va être bien malade. Et comme souvent, bah, comme d'autres personnes, hein, dont on peut penser à Ignace de Loyola qui a vécu aussi ce temps de maladie et du coup de retournement sur lui-même, de réflexion sur lui-même, de retour sur lui-même, François en prison va réfléchir à ce qu'est sa vie, au sens qu'il veut donner à sa vie. Il va sortir de prison, il va retourner à Assise, mais il sera un peu différent tout de même. Hein. Mais il rêve toujours d'être chevalier. Donc papa lui offre une belle armure, bien riche, et il part rejoindre Gauthier de Brienne pour aller combattre avec les croisés. En route, tout se passe pas tout à fait comme prévu. À Spolète, il a un songe durant la nuit. Et il entend donc une voix qui lui dit « Qui veux-tu servir, François ? Le maître ou le serviteur ?» Et là, dans la tête de François, se passe vraiment quelque chose. Et François se dit « Non, c'est pas le serviteur que je veux servir, c'est pas Gauthier de Brienne que je veux servir. C'est le maître, c'est Dieu. » Et François va faire demi-tour, il va rentrer à Assise et il va abandonner ses rêves de chevalier. Il va être chevalier autrement, il va être chevalier du Christ. Et c'est là le retournement de la vie de François.
Alors ça, c'est intéressant, le terme que vous venez d'employer, ce terme de retournement. Mmh. Parce que le concernant, est-ce qu'il faut parler de conversion religieuse ou de retournement, comme vous venez de le faire, et comme le font certains historiens? Je voudrais avoir votre avis à tous là, sur cette question. Sœur Marie-Joie.
Là, c'est vraiment un retournement, hein. Vraiment.
C'est le terme adapté pour vous.
Oui, oui.
Parce que la conversion, c'est quelque chose peut-être de plus brutal. Son retournement va se faire assez progressivement jusqu'au moment où il y aura le baiser ou lépreux, où là, peut-être qu'il faut parler de vraie conversion.
Peut-être, oui. Là, vraiment, il y a un retournement complet. Hein.
Il y a un retournement complet parce que François était croyant. Il n'a jamais cessé de croire.
Sa mère était très pieuse, d'ailleurs.
Sa mère était très pieuse. Son père, certainement aussi, puisque de toute façon, à l'époque, tout le monde était croyant.
Donc, à sa façon.
Voilà, à sa façon, mais tout le monde était croyant. Et donc, il n'y a pas comme une nouvelle adhésion à la foi au Christ. Il y a une adhésion neuve, je dirais.
Différente.
Voilà, différente. Oui, il ne repart pas à zéro, il repart à neuf.
Alors pour parler des ambitions du futur Saint François, et de ce qu'il faut bien appeler son gros ego tout de même, c'est qu'il disait à ses compagnons, à l'époque de sa jeunesse, « Apprenez que je serai un jour vénéré dans tout l'univers », ce qu'il deviendra d'ailleurs. Mais peut-être pas par les voies qu'il avait prévues.
Voilà, il pensait l'être parce qu'il deviendrait chevalier et qu'il aurait du pouvoir. Il est devenu autrement. Vraiment autrement.
Alors ça se fait sur combien d'années, ce retournement, cette conversion? Souvent, on dit que ça commence vers l'été 1205 et que ça va se faire jusqu'à début 1208, 1209.
Oui, c'est ça, ça va durer quelques années. Exactement, on ne sait pas, parce que donc François va rentrer à Assise, il va devoir affronter ses parents déjà, enfin du moins son père. Le nouveau dessein de François contrarie très fortement le papa, qui voulait un fils pour reprendre la boutique, qui était très prospère, hein, une boutique de draps. Et François dit à son père, « J'ai pas besoin de toi et de ton argent. Pour moi, il va aller jusqu'à se dépouiller complètement devant l'évêque, donc se mettre nu devant l'évêque, rendre ses vêtements à son père et dire à tout le monde, la foule présente devant l'évêque, « Maintenant, je n'ai plus qu'un seul père, c'est celui qui est aux cieux. Toi, Pierre Bernardone, tu n'es plus mon père. Hein. Tu m'as donné de l'argent, je te rends ton argent, je te rends même tous les vêtements que tu m'as donnés, sachant qu'il a bien dilapidé l'argent de papa pour aller reconstruire une église ici et là. Hein, »
Il en a bien profité à un moment donné.
Il en a bien profité, largement. Hein. Mais bon, là, le papa, il en a eu marre. Et donc, il y a eu un moment, c'est ce qu'on appelle le dépouillement devant l'évêque, où là, François dit clairement, « Là, maintenant, je suis religieux. » En gros, ça veut dire ça, ce dépouillement devant l'évêque. Il dit, j'appartiens à l'église maintenant. Et l'évêque va avoir ce geste protecteur de prendre sous sa cape François, qui est nu comme un ver, sur la place publique d'Assise. Et ça veut dire qu'il devient pleinement membre de l'église et rattaché à l'église. Et donc, quelque part, avec un statut d'ermite, de religieux, un statut un peu particulier.
À partir de ce moment-là, il dit, je peux vraiment désormais appeler Dieu mon père. Et oui. Ça, c'est très important parce que ça va faire naître toute sa fraternité avec le monde entier. Les frères, la nature. Ce fait d'appeler Dieu notre Père lui fait voir tout homme, toute femme, tout être comme des frères.
Tout être vivant comme un frère.
Ça fait naître la fraternité chez lui. Son seul père, c'est Dieu.
Pour parler des rapports orageux qu'il a avec son père, son géniteur, son père ira jusqu'à le faire un procès pour le déshériter.
Oui, oui. Et ce procès se terminera par le dépouillement devant l'évêque. Donc, oui, où le père, ça, finalement, a été pris à son propre piège parce qu'il a dit à l'évêque « Venez trancher entre mon fils et moi ». Et bien, il s'est retrouvé tout bête avec les vêtements de son fils à ses pieds et son fils tout nu devant lui, mais sous la protection de l'évêque. Ça va impulser quelque chose de nouveau dans la vie de François. À partir de ce moment-là, François est libre de tous les liens familiaux terrestres, même s'il reste certainement proche de sa maman. On n'entend plus parler des parents après, mais il a toujours été proche de sa maman. Après, il avait certainement un frère. On ne sait pas s'ils avaient beaucoup de frères et sœurs.
Il
on
n'entend
pas
frère,
parler.
Moins,
oui,
frère.
Il avait au moins un frère, mais on ne sait pas trop le restant de
qui
la famille.
Qui se moquait de lui, d'ailleurs.
Mm. Ah, on parlait d'une famille nombreuse.
Non, pas
plus
que...
C'est
non,
pas forcément
non,
vrai.
C'est
ça.
Pas forcément vrai. Comme non. C'est très ancien, on a dit beaucoup de choses. Et puis, on ne sait pas exactement...
On les a supposées plus
on a
que
supposé
vérifié,
beaucoup de choses. Et puis, on a voulu aussi que faire... correspondre la vie de François avec la vie du Christ. Alors même si on va à Assise, quelquefois, on se dit, bah oui, non, il n'est pas né dans une mangeoire, François, il faut arrêter un peu.
Oui.
Voilà. Mais donc, en tout cas, ce dépouillement, ça va ouvrir autre chose à François. Il va être libre de toute attache terrestre, notamment avec sa famille. Et il va partir vers Saint-Damien parce qu'il a entendu cet appel à reconstruire l'église. Alors, il commence à reconstruire l'église avec des briques et surtout, en même temps, il commence à visiter les lépreux, qui étaient les parias parmi les parias. Et il prend beaucoup sur lui pour aller visiter les lépreux, parce qu'il le dit que la vue des lépreux, il l'écrit dans son testament, quand j'étais encore dans les péchés, donc avant sa conversion, la vue des lépreux m'était insupportable. Et il poursuit dans son testament, Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je les soignais avec compassion. »
Il parle de miséricorde. Miséricorde. Ça me semble très important, cette notion de miséricorde qui imprègne sa foi dès le départ et toute sa doctrine ensuite. Oui, Sœur Marie-Joie, c'est fondamental, il me semble.
Moi, je me suis surtout arrêtée ce fait que ce qui m'avait paru amer s'était changé pour moi en douceur de l'âme et du corps. Et c'est à partir de là qu'il découvre quelque chose de la miséricorde infinie de Dieu. Parce que lui-même fait miséricorde aux lépreux.
Et à partir de ce moment-là, ce ne sont plus des lépreux pour lui, ce sont des frères.
Tout à fait.
Tout à fait, oui.
C'est le terme, je crois, qu'il emploie.
Ce sont des frères. Deux termes sont très importants pour François d'Assise et pour la petite fraternité qui va se créer à sa suite. Lui-même n'a rien créé, c'est les frères qui vont le rejoindre. C'est frères et mineurs. Quand on parle des frères franciscains du premier ordre, ils sont frères mineurs. Et quand on prend les termes latins employés par François lui-même, ils sont mineurs frères. Donc ces deux termes sont fondamentaux, mais ils sont mineurs avant d'être frères. Et cette minorité, ce n'est pas être plus petit, c'est un comparatif, c'est plus petit, mineur. C'est se faire plus petit, comme le Christ lui-même s'est fait homme. Donc ce n'est pas ponctuel. C'est vraiment une attitude, une posture fondamentale qui est demandée et permanence de se faire plus petit. Ce n'est pas comme un roi qui descendrait tout à coup, qui quitte son palais, qui va aller servir les gens et puis qui ensuite retourne dans son palais. Voilà, c'est vraiment se faire plus petit pour vraiment être avec les plus petits.
Alors vous parlez de communauté. Est-ce qu'on peut dire qu'il va créer une communauté ou la communauté va plutôt se créer autour de lui sans qu'il l'ait cherché ?
François n'a rien cherché.
Il n'a pas voulu fonder un ordre. Les frères sont venus autour de lui, quoi. Et au bout d'un moment, il s'est aperçu qu'ils étaient nombreux. Mais il n'a jamais voulu fonder un ordre. Jamais.
Gilles, sur cet aspect-là.
Effectivement, il a été rejoint, y compris par des gens qui étaient en... C'est la création du tiers-ordre séculier. C'est en fait des gens qui le rejoignent en disant « Nous, on est mariés, on a des enfants, on a des responsabilités familiales. Mais comment est-ce qu'on peut te rejoindre ?» Et c'est là que François dit « Ben, ne changez rien. » Mais par contre, suivez le terme qu'on emploie dans le tiers-ordre séculier, c'est passer de la vie à l'évangile et de l'évangile à la vie, tout en restant dans son état de vie tel qu'il est.
Est-ce qu'on peut dire par contre qu'il va édicter une règle, comme il y a une règle de Saint-Benoît ? Est-ce qu'il édicte assez rapidement une espèce de règle de Saint-François pour ceux qui le rejoignent ?
Alors oui, tout à fait. Alors je voudrais juste rajouter par rapport au premier frère, pour le coup, qui le rejoignent, c'est que ce qui est original par rapport aux autres ordres religieux à l'époque, c'est que les hommes qui vont le rejoindre vont être de tous milieux sociaux, et même des prêtres, des non-prêtres, des gens qui ont été alphabétisés, d'autres qui ne l'ont jamais été, des gens qui sont très instruits, et tous seront sur un pied d'égalité dans la petite fraternité naissante. Et ça, c'est une innovation très, très importante.
C'est révolutionnaire,
oui, tout à fait. Et donc François, avec ce petit groupe, alors on dit 12, mais bon, vous voyez bien à quoi on fait référence.
Oui.
Donc François, avec ce petit premier groupe de 12 frères, va partir à Rome pour proposer sa première règle. Une règle qui sera approuvée oralement par le pape. Parce que le problème de cette règle, c'est que c'était l'évangile. Et quand il est allé voir le pape et les prélats avec l'évangile réécrit, enfin pas réécrit, mais juste écrit sous forme de règle de vie, le pape et les prélats n'étaient pas prêts à l'accueillir. Et donc ils ne l'ont pas accueilli et ils lui ont dit « mais tu réécris ta règle ». Bon, il n'a pas dit tout à fait ça, mais comme ça. Mais ils m'ont dit déjà « toi tu es juste bon à aller avec les cochons, tu commences par aller avec les cochons et puis après on verra ». Et François va avec les cochons. Ce qui est très important par rapport à l'époque, François a toujours voulu rester dans l'Église. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de petits groupes qui, comme lui, étaient révolutionnaires et voulaient changer l'Église et toutes les richesses qui étaient là et toutes les déviances qui existaient dans l'Église à l'époque. Mais les autres groupes le faisaient à l'extérieur de l'Église.
Lui, il va changer les choses
de
l'intérieur.
Et lui, il va tout changer de l'intérieur, par amour et en vivant l'Évangile.
La rencontre avec Claire, la future Sainte Claire que nous évoquions tout à l'heure, Claire Offreduccio, c'est 1212, je crois.
1211.
Et il l'accueille, je crois, en 1212 parmi les siens.
Mm. En 1211, c'est la nuit des rameaux. Oui. Claire quitte chez elle pour aller rejoindre les frères à Saint-Damien.
Elle fugue
de nuit. Imaginez, une jeune femme...
Encore une forte tête.
Très forte tête. Une jeune femme de la noblesse d'Assise qui fugue de nuit par une porte dérobée
à
18 ans tout juste, pour aller rejoindre les frères franciscains, pas pour devenir frère, mais parce qu'elle veut vivre le même genre de vie, le même style de vie que François, alors que c'était strictement impossible à l'époque. Déjà, ce que vivaient François et ses frères, c'était révolutionnaire, mais alors une femme.
Et en fait, quand on parlait de règles, c'est la première femme à avoir écrit une règle, Sainte-Claire. Et tout à l'heure, quand vous parliez que le pape n'a pas compris, Sainte-Claire, c'est pareil, elle a demandé le privilège de pauvreté. Un privilège, en général, c'est pour quelque chose de mieux.
A priori.
Et le pape lui a dit, si vraiment c'est votre vœu de pauvreté qui vous empêche de recevoir des biens, je peux vous en absoudre. Elle dit, oh, mais sûrement pas, je ne veux pas être privée de suivre le Christ, pauvre. Et là, il a dit oui, le pape. Et c'est très beau, comme je trouve.
Alors, j'en reviens à la règle, il va quand même la coucher sur le papier à un moment donné. C'est ce qu'on a appelé la regula prima, je crois.
Alors, il y a la règle non bullata et la règle bullata. La règle non bullée et la règle bullée.
Oui.
Celle qui a eu la bulle du pape.
Du pape.
Alors, la première règle, c'est la non bullata. Celle qui a eu une approbation orale seulement. Et puis, en 1221... Je crois que c'est 1221 la deuxième
règle. Oui, la règle officielle,
voilà,
c'est 1221.
Voilà, la règle officielle, c'est 1221.
Oui, je confirme.
Voilà. En 1221, le pape va approuver la règle proposée par Saint François. Surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette époque, déjà, la décision avait été prise dans l'Église de ne plus approuver de nouvelles règles. Et donc, par exemple, les dominicains, qui sont nés à peu près au même moment, n'ont pas une règle spécifique, ils vivent selon la règle de Saint Augustin. Alors que les franciscains vivent selon cette règle, et les clarisses vont vivre selon la règle de Sainte Claire, qui sera approuvée aussi par le pape, première fois qu'une règle de vie religieuse, écrite par une femme, est approuvée.
Mais avec beaucoup de passages de la règle de Saint-François.
De Saint-François.
Ouais.
La fin de sa vie, à quoi ressemble-t-elle les dernières années, donc entre 1220 et 1226? Qu'est-ce qui va en sortir? Il y a des choses très importantes qui en sortent, comme le Cantique des créatures, justement. Voilà.
Alors, François a énormément souffert, hein, était très malade. Il était parti en Égypte rencontrer le sultan. Alors, on y a vu les prémices du dialogue interreligieux. Hein. Il a attrapé une maladie oculaire. Il était malade. De toute façon, il était souffrant. Donc, il est revenu à Assise aussi parce que déjà, on l'était un peu dépouillé de son ordre. Hein. Il n'était plus vraiment responsable de son ordre. Il a vécu une grande souffrance physique, mais une grande souffrance psychologique
aussi.
Hein. Il était assez torturé, François. Hein. On dit qu'il était peut-être déprimé. Enfin. Et François, à la fin de sa vie, est allé sur le mont Alverne et a reçu les marques de la passion du Christ, les stigmates, lors d'un temps de prière.
Ce serait même le premier stigmatisé de l'histoire.
Voilà, ce serait le premier stigmatisé de l'histoire. Alors peut-être Paul, puisqu'il écrit qu'il porte en lui les marques de la passion du Christ. Donc on ne sait pas si c'est des marques physiques ou si c'est, on ne sait pas exactement. Hein. Mais en tout cas, on est sûr que François a reçu les stigmates. Et donc c'est vraiment le signe que sa vie, il voulait sa vie la plus conforme possible à celle du Christ, et puis surtout de vivre la passion du Christ, quoi, son désir très fort de vivre la passion et la souffrance du Christ pour la résurrection, toujours. C'est pas la passion pour la passion, c'est jamais la passion pour la passion. Et François, alors qu'il était très très malade, est allé à Saint-Damien, donc chez les sœurs Clarisse, et là, alors qu'il était presque aveugle, qu'il était très très souffrant, il a écrit ce magnifique Cantique des créatures, qui est une louange à toute la création. Mais dans ce contexte de maladie et d'un être souffrant et quasi aveugle, et à la fin de sa vie.
Donc il meurt le 3 octobre 1226, c'est pour ça, alors en fait Saint-François le 4 octobre, hein. Bon, il meurt officiellement le 3 octobre 1226 dans une petite église à côté d'Assise, c'est le retour un
c'est
peu
Saint-Damien.
Aux sources. On évalue à l'époque la communauté franciscaine déjà plusieurs milliers de frères, hein. Alors, on dit 3000, 5000, on ne sait pas, mais en tout cas c'est déjà immense.
Oui. En fait, il est mort à ce qu'on appelle la Portioncule, qui est le berceau de l'ordre franciscain. C'est une toute petite église qui maintenant est dans une énorme basilique à Assise. Et cette toute petite église lui a été prêtée par les bénédictins, moyennant un panier de poissons chaque année. Et c'est vraiment le berceau de l'ordre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le berceau de l'ordre franciscain, mais que ça n'appartient pas aux frères, ça appartient aux bénédictins, et qui leur donne un panier de poissons chaque année, quelque part en location de cette église. Et donc ça veut dire aussi cette pauvreté franciscaine vécue aussi dans les biens.
Pour terminer cette première partie biographique et bibliographique aussi, on y vient. Quelles œuvres a-t-il laissé? Quels écrits a-t-il laissé? Ceux qu'on peut lui attribuer à coup sûr.
Alors à coup sûr, le testament, les deux règles qui ont été écrites, c'est sûr.
Deux testaments.
Deux testaments, oui. Et puis un certain nombre de lettres qu'il a écrites.
Des prières aussi,
Et aussi un certain nombre de prières, un psautier, et le fameux Cantique des créatures. Et aussi, merci Gilles, qui me montre toutes ces admonitions qui sont des petites perles de vie communautaire.
Donc, Cantique des créatures qui commence par les deux mots Laudato aussi, voilà. Repris par le pape François pour sa fameuse encyclique.
Je voudrais juste dire une chose. La prière qui est attribuée à saint François, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », elle est attribuée à saint François, mais elle n'est absolument pas de lui. Alors, je suis désolée pour tous ceux qui seront déçus d'entendre ça.
C'est pour ça que je parle des écrits qu'on peut lui attribuer,
voilà.
Plus sûr.
Mais cette prière-là date du 19e siècle.
Bon,
voilà.
Effectivement. Alors, ce qui est important aussi sur la vie de saint François, ce sont les Fioretti. Rappelez ce que sont les Fioretti.
Alors, les Fioretti, ça fait partie de ce qu'on appelle les légendes de François. Donc, c'est des...
C'est un recueil.
C'est ce qui doit être lu. Voilà, ce sont des textes, il y a les vies de François, et puis il y a les Fioretti et d'autres textes comme ça. Ce sont des recueils
d'anecdotes.
Les Fioretti sont plutôt des anecdotes.
Et des miracles aussi qui sont rapportés.
Et des miracles, oui, mais surtout c'est des anecdotes, enfin, mais des anecdotes qui disent des choses profondément aussi. Le loup de Gubbio, c'est dans les Fioretti. La rencontre du loup de Gubbio est très, très importante pour connaître François d'Assise. Voilà. Le sermon aux oiseaux.
Alors,
aussi, je crois, qu'il est dans les Fioretti.
Le sermon aux oiseaux, voilà. C'est dedans aussi.
Il y a aussi surtout ce qu'on appelle les légendes, les vies de François qui ont été écrites, qui sont des vies officielles et qui retracent vraiment sa vie. Et c'est par ces textes-là que l'on connaît la vie de François et puis tout ce qu'il a marqué, et puis toute sa spiritualité aussi.
Ça donne vraiment son esprit.
Alors, je ne sais pas si on a tout dit, certainement pas, mais en tout cas, je pense qu'on a brossé quand même bien le tableau, si je puis dire. Donc après cette première partie consacrée à la biographie et à l'œuvre de saint François d'Assise, nous allons parler de la famille franciscaine aujourd'hui, à notre époque. Avant cela, pause musicale dans cette émission. Plusieurs compositeurs ont dédié des œuvres à saint François. Il y a le célèbre opéra d'Olivier Messiaen, il y a la prédication aux oiseaux, une pièce pour piano de Franz Liszt, et puis il y a un petit oratorio composé par Charles Gounod. Nous allons en écouter un extrait, La Cellule.
Présence.
Mystère.
Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne. Pour la seconde partie de Vivante Église, je retrouve les trois invités de ce numéro dédié à Saint François d'Assise. Pascal Bonnef, membre du tiers-ordre franciscain régulier, sœur de Saint François d'Assise. Sœur Marie Joie, membre de l'ordre des Clarisses. Et Gilles de la Taillade, membre des fraternités franciscaines, qui font partie donc du tiers-ordre franciscain séculier. Ces précisions quant à vos appartenances respectives sont une excellente transition pour le sujet que nous allons aborder maintenant, la famille franciscaine de nos jours. Comment est-elle organisée? Il y a trois ordres. Quels sont ces ordres et quelles communautés s'y rattachent? Et je vais passer la parole à Gilles de la Taillade qui n'a pas beaucoup parlé jusqu'alors.
Les trois ordres dont on parle, l'ordre, le premier ordre, ce sont tous les frères qui sont nés des compagnons de Saint François. Alors, qui se sont divisés un petit peu ensuite pour des questions d'appartenance. Donc on a connu beaucoup de frères franciscains différents. Et on a eu les Cordeliers, on a eu des ordres qui sont regroupés. Aujourd'hui, il y a essentiellement trois familles qui sont donc ce qu'on appelle l'ordre des frères mineurs, les franciscains, l'ordre des capucins et puis les conventuels. Ça, ce sont les branches, on va dire, du premier ordre. Et puis ensuite, il y a quelques congrégations qui sont rattachées à l'un ou l'autre de ces ordres. On connaît bien sur Toulouse maintenant, ils nous ont rejoint les franciscains de l'Immaculée.
Oui,
voilà,
avec on en reçoit d'ailleurs Clément qui à Radio Présence assez souvent, le père voilà. Clément Bonneau par exemple.
Voilà. Le deuxième ordre, ben, ce sont les sœurs Clarisses, donc qui suivent la règle de Sainte-Claire. Et le troisième ordre, il y a un troisième ordre régulier, dont les sœurs de Saint-François d'Assise, avec des ordres également de frères franciscains du troisième ordre. Et puis l'ordre franciscain séculier, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui est né à l'époque de Saint-François d'Assise, et qui relève d'une règle aussi. Nous avons une règle qu'en France, on appelle le projet de vie. C'est une règle qui a été établie à l'époque de Saint-François, et puis qui a eu plusieurs évolutions. La dernière date de Vatican II, était approuvée par le pape. Et voilà, c'est le projet de vie auquel on s'engage, les franciscains, les laïcs séculiers.
Il faut rappeler ce que signifie séculier, ça veut dire qu'il vit dans le siècle.
Il vit dans le siècle. Moi, je suis marié, j'ai des enfants. J'ai une activité professionnelle. J'ai découvert Saint-François par des amis qui m'en ont parlé. On s'est rapprochés. Et voilà, je pense que c'est un des points sur lesquels je voulais insister. C'est-à-dire que Saint-François, on le connaît, comme vous le disiez, pour les oiseaux, le serment aux oiseaux, le loup de Goubieu, etc.
Et ses frasques de jeunesse.
Et ses frasques de jeunesse. Et en fait, quand on découvre Saint-François et qu'on commence à le connaître, en fait, on s'aperçoit que derrière une extrême simplicité, il y a une profondeur extraordinaire. Dans tout ce qu'il a écrit, dans tout ce qu'il a réalisé, dans son exemple de vie, il y a une profondeur incroyable. Et c'est une recherche permanente. Et pour citer juste un mot de Saint François d'Assise, peu de temps avant sa mort, il a dit à ses frères « Commençons, mes frères, nous n'avons encore rien fait ».
Tout est dit. Sœur Marie-Joie, donc vous, le deuxième ordre, les Clarisses, le deuxième ordre, vous êtes seul. Contrairement aux autres ordres, il n'y a que vous dans le deuxième ordre. Gilles de la Taillade vient d'en parler. Quelle relation avez-vous vous-même avec Saint-François, ses actes, ses écrits?
Nous sommes très très liés au tiers ordre franciscain, au laïc, parce qu'ils se réunissent chez nous tous les mois. Et puis on a vraiment des liens, hein, beaucoup de liens, hein, avec les autres groupes aussi. On se porte mutuellement, je trouve. Et puis, on se complète. Après...
Vie est très contemplative, quand même, à la base. Hein.
Oui.
La vie des Clarisses, et quand même, ce sont des religieuses contemplatives.
Sainte-Claire a voulu cette forme de retrait. Mais elle s'est toujours dit la petite plante de Saint-François. Parce qu'elle a vraiment voulu vivre l'idéal de Saint-François, mais en retrait. Je préfère le mot retrait que clôture, parce que ça fait un peu... Le retrait, ça veut dire qu'on prend
du recul.
Du recul, être dans le silence et répondre à cette vocation de prière.
Donc votre vie est surtout faite de prière?
Oui, c'est ça, oui. Oui. Mais très, très liée à la famille franciscaine, aux sœurs aussi. Enfin, vraiment, je crois qu'on fait souvent des rencontres.
Vous n'êtes pas complètement retiré dans la solitude.
On a une grande salle d'accueil, donc quand il y a des rencontres, ça, c'est chez nous, quoi.
Vous êtes combien à Toulouse?
On est 13.
Et vous accueillez beaucoup?
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir.
Alors, on a 5 Vietnamiennes, hein, parce qu'après, on est un peu âgés. On avait 2 autres Vietnamiennes qui sont restées 2 ans et qui ont été rappelées, mais il y en a d'autres qui je ne sais pas ce qui reviendront.
Alors, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous touche le plus chez Saint-François? Gilles de la Taillade parlait, lui, de ce qui le touche, hein, chez Saint-François.
C'est son attachement au Christ. Dans la pauvreté, sa contemplation du Christ crucifié. Et vraiment, on ressent chez Sainte-Claire cette même chose, cette même désir de ne vivre que pour le Christ. Et dans la louange aussi, Sainte-Claire dit « Je te demande de vivre pour le louer ». Et puis, ce qui m'a frappée toujours, moi je ne suis pas d'un milieu croyant, mais c'est la joie de François, sa joie et la joie de Claire qui, à la fin de sa vie, elle a quand même été restée 25 ans malade sur un lit, elle ose dire « Béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé ». C'est un cri de joie, et un cri de joie qui peut être, qui va être communiqué aux jeunes actuellement, qui cherchent un sens à leur vie, qui ont beaucoup de souffrance. Et ce cri de joie à travers la souffrance, et d'ailleurs le cantique des créatures, comme a souligné un peu tout à l'heure Gilles, il a été écrit dans une grande souffrance, hein. Une nuit profonde.
C'est peu avant sa mort, quoi. C'est un an grosso modo avant sa mort.
Et puis il souffrait beaucoup, il souffrait de voir que l'ordre, ça dévie un petit peu, quoi. Et surtout, il était aveugle et tout ça. Il avait les souris qui lui montaient sur le corps là, dans la petite cabane que Sainte-Claire lui avait préparée. Et à travers ça, il loue le soleil alors qu'il est aveugle.
Frère Soleil. C'est Frère Soleil chose. Dans le Cantique des créatures.
On ne pense pas suffisamment que ça a été écrit dans la souffrance.
Oui.
Et ça veut dire que c'est un signe d'espérance, que dans la souffrance, on peut aussi trouver l'espérance et louer le Seigneur. Et c'est une grâce qu'il avait, une grâce particulière, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort, qu'il ne faut pas s'arrêter aux petits oiseaux, et ça, c'est important. Mais il y a, comme disait Gilles tout à l'heure, il y a une profondeur chez François qui change notre vie. Hein.
Alors, vous avez employé un terme sur lequel je veux revenir, c'est la notion de joie, qui, pour un chrétien, c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut, c'est plus que le bonheur. Hein. La joie, c'est encore autre chose. On parlait de la notion de miséricorde qui imprégnait sa foi dès le début, mais je pense que la notion de joie aussi est quelque chose de très présent chez lui. On disait en antenne tout à l'heure que s'il y a un saint avec qui on aimerait bien aller boire un verre, qui nous paraît sympathique d'emblée, c'est bien saint François. Sœur Pascale.
Je ne sais pas si j'irai boire un verre avec François, mais bon, pourquoi pas, hein, si venez. Oui, effectivement, François, c'est aussi le saint de la joie, alors qu'il a souffert infiniment, mais parce qu'il remet toute sa vie en Christ. Il ne s'appartient pas, François. Il a remis toute sa vie en Christ, et à partir du moment où il ne s'appartient plus du tout, François s'est exprimé, bien d'autres après lui aussi, mais mon Dieu est mon tout. Dieu est tout pour lui. Et donc, à partir du moment où on ne s'appartient plus, la joie peut être vraiment profonde et vraiment présente. Il y a un texte qui est connu qui est très connu chez les franciscains, c'est celui de ce qu'on appelle la joie parfaite. Alors c'est devenu une expression en français, c'est la joie parfaite. Et en fait, ce texte de la joie parfaite nous explique que François, un soir où d'hiver, il faisait nuit, il ventait, il y avait de la neige, il faisait froid, et François arrive tout mouillé aux portes d'un couvent franciscain, et il frappe à la porte, et on lui dit « Non, tu rentreras pas ». Il expliquait à frère Léon, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que la joie parfaite ? On pourrait avoir tous les plus grands théologiens du monde, ça ne serait pas là la joie parfaite. Les rois pourraient devenir franciscains, sachant que Saint-Louis était laïque franciscain, tiers ordre séculier, ça ne serait pas là la joie parfaite. Tu pourrais avoir tout le monde entier qui devient chrétien, ce n'est pas là la joie parfaite. Mais si, en arrivant à la porte du couvent, transi de froid, je frappe à la porte et le frère portier me dit « Non, je ne te connais pas, va dehors, reste dehors. » et que je frappe encore à la porte, et que le frère portier me dit la même chose, et si je ne perds pas la paix du cœur, alors là est la joie parfaite. Elle est là, cette joie de François. C'est pas piou-piou les petits oiseaux, c'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond.
C'est pour ça que je parle de joie et non pas de bonheur, parce que c'est encore autre chose. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de supérieur. Alors, votre ordre à vous, les sœurs de Saint-François d'Assise, parlez-nous-en un peu.
Alors nous, on est donc des religieuses apostoliques, comme bien d'autres. On est né, du temps de François, la vie religieuse féminine, comme celle qui a été mise en place par François, était quasiment impossible. Et donc, les sœurs comme Claire avaient une vocation particulière à vivre en retrait, mais il n'était pas pensable que des femmes vivent la même vie que les frères. Et donc, si une femme voulait suivre l'idéal de vie de François, elle devenait Clarisse. Alors, il y a eu des béguines, il y a eu des femmes ont quand même pu vivre un idéal de vie proche de celui de François, mais c'était très, très complexe. Et par contre, quand c'est devenu possible, donc surtout à partir du 19e siècle, mais bien avant déjà, hein, mais ça s'est surtout développé au 19e siècle, et ben des congrégations féminines sont nées, vont leur vivre de la spiritualité de François d'Assise, envoyé dans le monde comme François et ses frères vivent dans le monde et sont envoyés dans le monde au service des plus pauvres pour leur dire en parole et en acte qu'ils sont aimés de Dieu.
Alors, une des particularités de votre communauté, c'est que ce sont des petites fraternités, des petites structures.
Oui. Alors, nous sommes 5 en fraternité. On est à Toulouse depuis bien longtemps. Moi, je suis revenue à Toulouse cette année, mais j'y avais déjà vécu il y a 25 ans. Et nous sommes 5 en fraternité. Là, l'année dernière, on était un tout petit peu plus nombreuses. Mais ça reste des petites fraternités avec un engagement de vie salarié, au service des autres, avec les autres. Voilà, donc autant que possible, on travaille et on cherche à vivre comme tout le monde, à être habillé comme tout le monde, sans se différencier plus que ça. On n'est pas forcément dans la pastorale, on cherche à vivre, travailler avec d'autres, chez les autres, tout simplement, avec une vie religieuse, des temps d'office et voilà.
À vous, si je vous pose la même question qu'à Gilles de la Taillade et à Sœur Marie-Joie, qu'est-ce qui vous touche le plus chez Saint-François ? Beaucoup de choses, apparemment.
Beaucoup de choses, oui. Je retiendrai ce que je disais tout à l'heure, la minorité. Pour moi, cette attitude de minorité est fondamentale. Se faire plus petit, serviteur de l'autre, vivre le lavement des pieds. Voilà, essayez. Hein. Toujours pareil, on y tend. Hein. Il y a du bon.
C'est ce vers quoi on tend.
Voilà, ce vers quoi on tend. Et voilà, c'est l'œuvre de toute une vie. Hein. Oui. Mais vivre le lavement des pieds et se positionner en minorité devant l'autre, servir l'autre en se mettant plus bas que lui, quelque part, pour lui le relever. Et puis, moi, ce qui me touche chez François aussi, mais c'est dû à mon histoire personnelle, j'ai vécu longtemps au Maroc, c'est cette spiritualité de la rencontre que François a mise en œuvre, la spiritualité de la rencontre de l'autre. Quand je rencontre l'autre, je peux lui faire savoir par mes gestes, par ce que je suis, par mes paroles, sans vouloir le convertir, mais qu'il est aimé profondément de Dieu. Et c'est ça qui est important.
Il poverello, le petit pauvre. Pauvre, mais petit parmi les pauvres. La messe, ce dimanche 5 octobre, donc à 11h, à l'église du Sacré-Cœur de Toulouse, est dédiée à Saint-François d'Assise au lendemain du jour où nous le fêtons. Elle va être célébrée par le père Guillaume Lose. En quoi va-t-elle être dédiée à Saint-François ?
Alors, on prend les textes de la messe du jour de la messe de Saint-François selon le missel franciscain. Donc, avec des textes liturgiques qui sont plus en lien avec la spiritualité franciscaine directement. Et puis, elle sera aussi franciscaine parce que toute la famille franciscaine de Toulouse sera présente. Sauf nos sœurs Clarisse, mais on ira fêter chez elles la veille. Voilà.
Parce qu'il y a des choses déjà dès le samedi, je crois. Hein.
Alors, dès le vendredi soir... Dès le vendredi soir, le Transitus sera fêté chez nos sœurs Clarisse. Le Transitus, c'est la célébration du passage de François, du passage de la mort à la vie éternelle.
Ce sont les notre sœurs mort. Qu'ils ont préparé.
Voilà, sœurs notre mort corporelle. Donc, c'est à 19h chez nos sœurs Clarisse. Et le lendemain, à 9h, toujours chez nos sœurs Clarisse, ce sera la messe du jour de la Saint-François. Donc avec les mêmes textes que le lendemain au Sacré-Cœur, mais en plus petit comité, puis avec nos sœurs Clarisse, surtout ce qui est fondamental.
Et puis donc, je l'ai évoqué en début d'émission, en 2026, nous allons commémorer les 800 ans de la mort de Saint-François d'Assise. Il y a un colloque qui va être organisé à cette occasion, c'est le père Cyprien Comte qui en est l'initiateur, le coordinateur, on peut dire les choses comme ça. Quand et où doit-il avoir lieu ? Quelle va être sa thématique générale ? Quels sujets vont y être abordés ? Comment ça va se passer ?
Alors, ce colloque aura lieu les 12 et 13 juin à Toulouse, à l'Institut catholique. Le thème, c'est François d'Assise à Toulouse et en Aquitaine, 13e, 21e siècle. Il sera sur 2 jours, peut-être quelque chose le 11 au soir à voir.
Hein, donc 12 et 13 juin, c'est un vendredi à samedi.
Le vendredi 12 juin, le thème sera l'histoire du franciscanisme à Toulouse et dans la région. Et le samedi 13 juin... la postérité de Saint-François sur le thème de la rencontre. Alors, les deux journées seront un petit peu différentes, hein, parce que les conférences qui sont déjà prévues porteront surtout sur l'histoire et le patrimoine de la famille franciscaine à Toulouse ou dans la région. Et il y aura un certain nombre de visites qui seront organisées pendant la durée du colloque. Donc ça, c'est plutôt le vendredi. Et le samedi, ce sera tout aussi sérieux, mais peut-être plus accessible à un large public. Voilà, moins universitaire le samedi, plus universitaire le vendredi. Mais de toute façon, ouvert à tous. Et puis, ça permettra d'avoir un certain nombre d'intervenants de la région, mais qui viendront aussi plus largement de l'ensemble de la France.
Il y a déjà des intervenants qui sont connus.
Il y a déjà un certain nombre d'intervenants qui sont connus. De tête, je citerai volontiers Pierre Moracchini, qui est un des plus grands spécialistes de l'histoire franciscaine, et puis peut-être aussi de tout ce qui est patrimoine architectural franciscain. Alors, s'il nous fait visiter Toulouse, je vous conseille vraiment de venir, parce que ça va être extraordinaire.
On va se régaler si on aime le patrimoine.
Oui, oui.
Donc, des conférences plutôt le vendredi, je pense.
Alors, des conférences surtout... plus universitaire le vendredi, et puis plus ouverte à tout public le samedi.
Donc il y aura des tables rondes.
Certainement des tables rondes. Ce sera affiné encore parce que ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais bien sûr, chacun est invité à venir et le public pourra participer et intervenir.
Et ça se passera à l'Institut catholique de Toulouse.
À l'Institut catholique de Toulouse. Voilà, c'est organisé en partenariat avec l'École franciscaine de Paris et la chaire Jean Rodin de Toulouse.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, ça va, vous vous en doutez, mais le colloque sera là pour ça, pour approfondir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce numéro. Je vais donc rappeler que ce colloque est prévu pour juin 12 et 13 juin 2026 à l'Institut catholique de Toulouse. Et en attendant, je vous invite à participer à la messe qui est dédiée à Saint François d'Assise ce dimanche 5 octobre à 11h en l'église du Sacré-Cœur de Toulouse. Cette émission était animée par Éric Dupri à la technique Francky Guéret. Merci de votre fidélité à Vivante Église et rendez-vous la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.